Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce que tu nous as rassemblés ici ce matin. Tu nous as rassemblés pour pouvoir te louer, pour pouvoir te rendre un culte qui te soit agréable, pour que nous puissions être aussi enseignés par ta parole. Tu as des choses à nous dire, tu veux parler à notre cœur. Et ce matin encore, tu veux nous dire des choses. Tu veux amener nos regards vers toi. Tu veux que nos cœurs tout entiers t'appartiennent. Tu veux que nos vies, si nous sommes à toi, soient de plus en plus consacrées à ta personne. Et c'est ce que nous voulons te demander, te prier ce matin. Parle encore au Seigneur. Donne à chacun le message dont il aura besoin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je vous propose un passage dans une lettre peu connue, en tout cas petite par la taille, mais grande par le contenu. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans le livre de Philémon, l'épître à Philémon, juste avant Hébreux. Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, et Timothée, notre frère, salue Philémon, notre cher ami et notre collaborateur. Ainsi qu'Appia, notre sœur, Archippe, notre compagnon d'armes, et l'Église qui s'assemble dans ta maison. Que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ, vous accorde la paix et la grâce. Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à Dieu lorsque je fais mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la foi que tu as envers le Seigneur Jésus et envers tous ceux qui lui appartiennent. Je demande à Dieu que la solidarité qui nous unit à cause de ta foi se traduise en actes et qu'ainsi tout le bien que nous t'aurons amené à faire pour le Christ soit rendu manifeste. Car j'ai éprouvé une grande joie et un grand encouragement en apprenant comment tu mets ton amour en pratique, frère. Tu as en effet réconforté le cœur de ceux qui appartiennent à Dieu. C'est pourquoi, malgré toute la liberté que le Christ me donne de prescrire ton devoir, je préfère t'adresser cette demande au nom de l'amour, étant ce que je suis, moi, Paul, un vieillard et de plus maintenant un prisonnier à cause de Jésus-Christ. Je t'adresse cette demande au sujet de mon enfant, Onésime, dont je suis devenu le père spirituel ici en prison. Autrefois, il t'était inutile, mais maintenant il est utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie donc, lui qui est devenu comme une partie de moi-même. Personnellement, je l'aurais volontiers gardé auprès de moi. Il aurait pu ainsi me rendre service à ta place alors que je suis en prison ici à cause de la bonne nouvelle. Je n'ai cependant rien voulu faire, rien entreprendre sans ton assentiment pour que le bienfait que tu m'aurais ainsi accordé ne soit pas forcé, même en apparence, mais entièrement volontaire. D'ailleurs, qui sait, peut-être Onésime a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours, non plus seulement comme un esclave, mais bien plus qu'un esclave, comme un frère très cher. Il l'est tellement pour moi. Combien plus ? Le sera-t-il pour toi en tant qu'homme et en tant que frère dans le Seigneur. Par solidarité envers moi, accueille-le, comme s'il s'agissait de moi-même. Si tu as été lésé par lui ou s'il te doit quelque chose, porte cela sur mon compte. Je t'écris ce qui suit de ma propre main. Moi, Paul, je te rembourserai ses dettes. Et je ne veux pas te rappeler ici que toi aussi, tu as une dette à mon égard, celle de ta personne. Oui, frère, fais-moi cette faveur. À cause du Seigneur, réconforte mon cœur pour l'amour du Christ. Je t'adresse cette lettre avec la certitude que tu répondras à mon attente, et même, je le sais, tu feras encore plus que je ne demande. En même temps, prépare-moi une chambre. J'ai bon espoir de vous être rendu bientôt en réponse à vos prières. Épaphras, qui est en prison avec moi à cause de Jésus-Christ, te fait bien saluer, de même que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Que la grâce, que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde sa grâce. Mmh. Nous avons donc dans cette lettre à Philémon une histoire. Cette histoire, c'est donc l'histoire de Philémon, qui est un ami de Paul. Et ça concerne Onésime, dont on apprend qu'il est un esclave en fuite. Onésime, donc, s'est enfui. Il a rencontré Paul en prison et à son contact, il s'est converti à la foi chrétienne. Paul le renvoie auprès de Philémon et dans la lettre qui lui est adressée, lui demande d'accueillir son esclave fugitif en le recevant comme un frère et d'accepter de renvoyer Onésime auprès de Paul, d'où il s'est rendu extrêmement utile. Voilà, en résumé, hein, à très gros traits, l'histoire de cette épître à Philémon. Et en préparant cette prédication, je me suis demandé, mais en fait, pourquoi cette lettre si personnelle, si individuelle, nous est parvenue? Pourquoi est-ce qu'elle trouve sa place dans le Nouveau Testament? Après tout, contrairement aux autres épîtres de Paul, il n'est pas question ici ni de doctrine, ni de grand développement théologique. Il n'est même pas question d'un problème d'église qu'il faudrait régler, mais juste d'une affaire personnelle. Alors, à quoi bon Philémon? Si cette épître ne contient rien de tout cela, elle reste néanmoins, et j'espère que vous en serez convaincus avec moi, un incroyable exemple d'amour, d'intercession, de vie chrétienne mise en pratique de manière concrète, qui nous dirige, nous allons le voir, vers le message de la bonne nouvelle. Donc cette prédication, je l'ai divisée en trois parties. Premièrement, l'épître à Philémon est une affaire de personne. Deuxièmement, l'épître à Philémon, c'est une affaire de tact. Et troisièmement, l'épître à Philémon, c'est un concentré de l'Évangile. Alors l'épître à Philémon, une affaire de personne. Ce qui est intéressant, c'est que dans la Bible, avant d'être un livre qui nous parle de théologie, de doctrine, c'est d'abord un livre qui nous parle de relations. De relations entre Dieu et l'homme et de relations entre l'homme et ses semblables. Donc nous allons voir comment cette histoire de relation se décline de manière particulière dans cette épître à Philémon. D'abord, Philémon, qui est-il? Nous avons quelques indications sur sa personne. C'est probablement un homme assez aisé. Comment on peut le savoir? D'abord, il possède des esclaves, et des esclaves à cette époque, ça s'achète. Donc il faut avoir de l'argent pour cela. Deuxièmement, il accueille une communauté chrétienne dans sa maison. On peut donc supposer que sa maison est d'une certaine taille, suffisamment grande en tout cas pour pouvoir accueillir une petite communauté chrétienne. La tradition rapporte que Appia serait sa femme et Archip son fils, même si nous n'en avons pas la certitude absolue. Philémon se trouve dans la ville de Kolos, qui est en Turquie actuelle. Et nous savons cela parce que Paul fait mention de Archip dans les salutations finales de la lettre aux Colossiens. Philémon, qui est-il? Dans son caractère, on voit que c'est un homme de qualité. Il est d'abord engagé d'une manière particulière avec Paul dans le ministère, ce qui lui vaut le titre de collaborateur au verset 1. Nous saluons Philémon, notre cher ami et notre collaborateur. C'est un homme qui dégage des fruits de foi et d'amour, autant pour son Seigneur que pour les autres. Ça se voit, ça s'entend, à tel point que Paul dit « j'entends dire ». Il y a une sorte de réputation qui a précédé Philémon. J'entends parler de l'amour et de la foi. Philémon est un homme qui a le désir de mettre sa foi en pratique. Et ça se caractérise par une propension à réconforter le cœur de ceux qui appartiennent à Dieu. C'est ce que nous voyons au verset 7. Littéralement, réconforter le cœur de ceux qui appartiennent à Dieu, ça nous donner du repos au cœur. Quel beau ministère, n'est-ce pas? Philémon est un homme qui donne du repos au cœur. Il fait honneur à son nom, Philémon, ça veut dire attentionné, qui embrasse. C'est beau, n'est-ce pas? Il est le contraire de celui qui critique, qui juge, qui écrase son prochain, Il prodigue des paroles douces, à propos, des encouragements. Il aide ceux qui souffrent. Et dans cette assemblée, il y a des gens qui sont des Philémons. C'est un ministère précieux pour une église d'avoir des personnes qui sont ainsi douées de ce ministère particulier, de donner du repos au cœur. Que le Seigneur nous donne de pouvoir grandir dans cette envie d'être des Philémons et qu'il fasse prospérer dans cette église de nouveaux Philémons. Passons à la deuxième personne, Onésime. Alors lui, Onésime, c'est un esclave. C'est une position courante dans l'Empire romain de l'époque. On dit qu'à peu près un tiers des personnes qui habitaient dans l'Empire romain étaient des esclaves. C'est dire que c'est une chose tout à fait banale. Onésime ne devait pas être un esclave très assidu, puisqu'il est dit au verset 11 « Autrefois, il t'était inutile ». Qui plus est, le verset 18 suggère qu'Onésime est parti avec la caisse. « S'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. » Bah oui, il faut bien financer son voyage. Parce que quand même, Colosse, c'est à peu près à 2000 km de Rome où nous retrouvons Onésime. Alors aujourd'hui, ça se ferait en quelques heures d'avion, hein, mais à l'époque, alors soit il passe par la mer, il faut qu'il prenne un bateau, donc ça se paye, ou bien il passe par la terre, mais bon, là encore, il faut, en passant par la Grèce, tout ça, il faut financer son voyage. Et c'est compliqué de s'enfuir, non seulement parce que ça coûte cher, mais aussi parce qu'il est un esclave en fuite. Et à l'époque, un esclave en fuite, bien sûr, c'est répréhensible. Si vous êtes rattrapé, vous risquez le marquage au fer rouge, au mieux. Onésime n'est pas à Rome comme un touriste, mais comme un fugitif. S'il retourne auprès de son maître, il risque gros. En prison, Onésime est transformé. Au contact de Paul, il se convertit, il change radicalement. Paul dit au verset 12, « Il est devenu comme une partie de moi-même. » Il y a quelque chose qui s'est produit au contact de Paul, il est devenu un frère très cher, au verset 16. De fugitif qu'il était, Onésime devient un assistant précieux pour Paul. Il dit, Paul, personnellement, je l'aurais volontiers gardé auprès de moi. Il aurait pu ainsi me rendre service à ta place alors que je suis ici en prison. Verset 15. D'inutile, Onésime devient utile pour Paul. Il embrasse alors tout le sens de son nom. Onésime, ça veut dire utile. Voilà le miracle de la conversion. La grâce de Dieu et son Saint-Esprit qui est déversé dans le cœur régénèrent un homme voleur et inutile en un serviteur zélé. Je vais vous dire une chose ici, quand nous proclamons l'Évangile, et c'est ce que nous faisons ce matin, nous ne parlons pas d'une réforme superficielle, d'une morale qui change de manière relative notre comportement. Quand nous proclamons l'Évangile, nous parlons d'une puissance surnaturelle, le Saint-Esprit, qui est capable de métamorphoser complètement une personne, qui fait un travail en profondeur dans le cœur. La métamorphose, c'est un miracle de Dieu. Aucun homme ne peut faire cela par ses propres forces ou sa propre volonté. Mais nous voyons aussi que les circonstances qui ont amené Onésime à la conversion sont aussi un miracle. Réfléchissez à cela. Un esclave s'enfuit de son maître, où il devait être probablement bien traité, si l'on en croit le caractère qui nous est décrit de Philémon. Il part, esclave ingrat, il se retrouve dans la ville la plus populeuse de l'époque, Rome. L'équivalent, je ne sais pas moi, de New York aujourd'hui. Il fuit son maître chrétien, et à Rome, il se retrouve en prison. Il devait y avoir certainement beaucoup de prisons à Rome, dans une prison, dans un cachot, avec Paul. Mince. Et là, au contact de Paul, il se convertit. Mais mieux, Paul connaît personnellement son maître. C'est quand même dingue, non? Mes amis, quand Dieu veut le salut d'une personne, il utilise tous les moyens qui sont à sa portée, c'est-à-dire tous, pour arriver à ses fins. Et non seulement il a la souveraineté pour arriver à ses fins, mais il peut aussi préparer par avance le moyen qui va permettre à la personne de réparer ses erreurs passées. Dieu avait déjà prévu que Onésime rencontre Paul, que Paul connaisse Philémon et que Paul soit l'agent de la réconciliation qui permettra que Onésime et Philémon puissent se retrouver dans de bonnes conditions. Dieu avait déjà préparé tout ça. Mais tout converti qu'il est, Onésime n'en reste pas moins un esclave en cavale, coupable vis-à-vis de la loi de l'époque, on l'a dit. Alors que faire ? Revenir auprès de son maître, c'est risquer de lourdes sanctions. Même si on imagine difficilement Philémon marquer au fer rouge son esclave, on peut quand même se dire que les coups de bâton n'auraient pas manqué. Alors Paul, il va intervenir personnellement. Il va mettre sa personne en jeu pour convaincre Philémon d'accepter Onésime et de lui faire bon accueil. Et il va utiliser là trois arguments qui sont très touchants. Nous arrivons donc à la deuxième partie, l'épître à Philémon, une affaire de tact. Premièrement, quand nous lisons l'argumentation que Paul va utiliser, il se refuse à une chose, c'est l'argument d'autorité. Regardez avec moi au verset 8. Voilà. C'est pourquoi, malgré toute la liberté que le Christ me donne de te prescrire ton devoir, je ne le ferai pas. Moi, Paul, le grand apôtre, le plus grand évangéliste de l'époque, celui qui a contribué à la conversion de Philémon, je n'utiliserai pas mon statut de grand apôtre pour te prescrire ton devoir. Pourtant, il en aurait le pouvoir, il en aurait la capacité, il en a l'autorité. Il aurait pu dire à Philémon, « Écoute, voilà, c'est moi, Paul, qui t'écris, tu vas accepter Onésime, tu vas lui faire bon accueil, et il n'y a pas intérêt à ce qu'il reçoive un coup de bâton. » Mais Paul utilise une autre voie, plus risquée, plus personnelle aussi. C'est la voie de l'amour. Verset 9. « J'aurais pu te prescrire ton devoir, mais... je préfère t'adresser cette demande au nom de l'amour. » Qui plus est, Paul se décrit comme un vieillard enchaîné dans une prison. Plutôt que de mettre en avant ses qualités d'apôtre, il préfère se décrire comme un homme faible et humble, impuissant. Vous me direz, ok, Paul demande à Philémon d'accueillir son esclave au nom de l'amour. Ben, c'est assez banal, non ? Bon, il est chrétien, donc l'amour, c'est important. Ok. Certes, mais regardons juste avant, au verset 7. « Car j'ai éprouvé une grande joie et un grand encouragement en apprenant comment tu mets ton amour en pratique. Frère, tu as en effet réconforté le cœur de ceux qui appartiennent à Dieu. » C'est pourquoi, au verset 8, je préfère t'adresser cette demande au nom de l'amour. « Puisque tu t'es caractérisé dans l'Église comme un homme qui met l'amour en pratique, à cause de cela, je préfère t'adresser cette demande au nom de l'amour, au nom de ce que tu fais déjà en réalité. » Paul s'appuie sur les qualités que Philémon avait déjà démontrées dans l'assemblée pour lui demander une fois encore de mettre cet amour en pratique, d'aller un peu plus loin, plus haut, plus fort. C'est pas les Jeux Olympiques, mais... d'oser mettre son amour en pratique encore une fois, d'une manière particulièrement élevée, puisqu'il s'agissait quand même d'accueillir son esclave renégat et voleur. Ça nous fait penser que le Seigneur parfois veut nous mettre au défi d'accomplir des actes d'amour qui semblent dépasser l'acceptable. Il nous demande parfois de sortir de notre zone de confort bien établie pour oser encore aimer. Sommes-nous prêts à aller au-delà de nos limites bien établies ? Quel est le souhait de Paul ? Son premier souhait, ça aurait été de garder Onésime auprès de lui. On l'a vu, Onésime s'est caractérisé comme quelqu'un de très utile pour l'apôtre. Mais Paul dit au verset 14, Je n'ai cependant rien voulu entreprendre sans ton assentiment, pour que le bienfait que tu m'aurais ainsi accordé ne soit pas forcé, même en apparence, mais entièrement volontaire. Paul met ici l'accent sur la liberté de faire le bien. Et si Dieu commande, il attend de notre part une obéissance volontaire. Et c'est bien ça qui va donner toute sa valeur à l'obéissance. C'est qu'elle n'est pas forcée. Dieu nous appelle à avoir un cœur qui lui obéit volontairement. Mais il y a quand même quelque chose de beau dans tout ça. Paul est en prison. Il a besoin d'aide. Son besoin, entre guillemets, égoïste, pourrions-nous dire légitime, c'est de garder Onésime auprès de lui. Mais sa préoccupation première, c'est pas ça. C'est de permettre à Philémon de porter du fruit, encore plus de fruits, en lui donnant la possibilité, volontairement, d'accepter que Onésime revienne auprès de lui. Je trouve quand même assez incroyable que, au vu des souffrances que Paul a dans cette prison, il a à l'esprit quelque chose d'encore plus important que régler ses problèmes. Ce qui est plus important pour lui, c'est que son frère Philémon porte du fruit spirituel. Ça m'a mis une claque, parce que je me suis dit, bon, quand je suis dans la difficulté, il nous arrive tous de passer par des temps plus compliqués, de maladie, de chômage, de deuil. Est-ce que je suis encore capable de me préoccuper de la croissance spirituelle de mes frères et sœurs? Je voudrais ici vous donner une illustration qui nous enseigne dans ce sens-là. C'est une histoire tirée de l'arrière-grand-père de mon épouse, Yuko. Il s'appelait Monsieur Toshio Saito, il est japonais, il était. C'était un pasteur évangéliste. Et vers la fin de sa vie, il a été atteint par un cancer. Il était donc sur son lit d'hôpital. Et là, il a demandé à sa fille de lui acheter une centaine de cartes. Et de son lit d'hôpital, chaque jour, il écrivait des cartes pour encourager des gens, des frères et sœurs, des personnes qu'il connaissait, pour les encourager, pour fortifier leur foi. Lui-même, sur son lit de souffrance, avait encore cette pensée jusqu'à son dernier souffle pour les gens qui étaient autour de lui. Que le Seigneur nous accorde vraiment cette grâce de pouvoir avoir cette foi mise en pratique, même dans les moments les plus difficiles. Paul utilise un autre argument, versets 15 et 16. Il dit, « Quand Onésime va revenir, tu vas le retrouver comme un frère. Il n'est plus le même. Vous ne serez plus simplement dans un rapport humain, d'homme à homme, mais vous serez dans un rapport de frère à frère. Donc accepte-le tel qu'il est. » Et Paul va suggérer aussi que la fuite de Onésime a pu être conduite par Dieu, afin qu'au travers de cela, il se convertisse à la foi chrétienne. Donc le message que Paul adresse à Philémon, c'est le suivant. Considère qu'au travers de ce péché, la fuite de Onésime, Dieu s'en est servi dans sa merveilleuse providence pour te ramener un frère. Troisième argument, verset 17, accueille-le par amitié pour moi. Par solidarité envers moi, accueille-le comme s'il s'agissait de moi-même. Jusqu'à présent, vous l'aurez remarqué, Paul n'a pas expressément annoncé l'objet de sa demande. Il développe, je ne dirais pas qu'il tourne autour du pot, mais en tout cas, il avance très progressivement, très précautionneusement. Et jusqu'à présent, avant le verset 17, il n'a toujours pas donné une seule instruction à Philémon. Il commence à lui demander quelque chose simplement au verset 17. Et ça tient en deux mots. Accueille-le. Voilà la première fois dans cette lettre qu'il lui demande quelque chose. Accueille-le. Dans d'autres versions, reçois-le. Certaines versions disent « Si tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. » Paul va puiser, en quelque sorte, dans le crédit de l'amitié qui le lie à Philémon, pour lui dire « Écoute, même si tu ne le fais pas pour lui, fais-le au moins pour moi, au nom de notre amitié. » Paul s'engage lui-même. Il se met dans la balance en demandant à Onésime de l'accueillir au nom de l'amitié qui le lie tous les deux. Après un tel plaidoyer, quelle a été la réaction de Philémon ? Nous ne le savons pas dans cette lettre, mais nous le savons dans une autre lettre. Je vous invite à regarder dans Colossiens, au chapitre 4, verset 9. Une lettre donc qui a été écrite après celle de Philémon. Je lis. Donc Paul envoie Tychique, verset 7, et verset 9, j'envoie avec lui, tiens donc, Onésime, notre cher et fidèle frère qui est l'un des vôtres. Ils vous mettront au courant de tout ce qui se passe ici. Ah, nous avons donc la réponse. Philémon a libéré Onésime. Il l'a reçu. Il l'a renvoyé auprès de Paul, et Onésime est devenu un serviteur zélé pour la cause de l'Évangile. La tradition dit même qu'il aurait été nommé évêque. Peut-être y a-t-il une confusion avec un autre Onésime, mais il est certain en tout cas que Onésime a joué un rôle majeur dans l'Évangile. Et on peut quand même se dire que si Philémon avait refusé d'accueillir Onésime comme son frère, s'il avait dit « Écoute, méchant esclave, tu vas rester auprès de moi et il est hors de question que je te renvoie aux côtés de Paul », quelle perte ça aurait été pour l'Église, quel gâchis ça aurait été de ne pas pouvoir utiliser cette transformation de Onésime pour la cause de la bonne nouvelle. Si Philémon avait choisi la punition au lieu du pardon, la rétention au lieu de l'envoi, quelle perte l'Église aurait subie. À notre niveau, nous avons parfois l'opportunité d'accorder le pardon. Et nous n'avons pas toujours conscience de ce que cela entraîne, des conséquences à long terme. Mais qu'en savons-nous ? Comment pouvons-nous connaître le fruit que notre pardon peut entraîner dans le futur ? Bien, jusqu'à présent, nous sommes surtout intéressés au contenu pratique de cette lettre, des échos qu'elle pouvait avoir aussi dans notre vie. Mais vous me direz, mais bon, où est l'Évangile dans tout ça, concrètement, la doctrine, la théologie c'est quand même l'apôtre Paul qui parle. Mais vous savez que quand Paul parle, Jésus-Christ n'est jamais très loin. Et il est quand même frappant de constater que même au travers d'une lettre qui se veut très personnelle, très intimiste, très individuelle, Paul est en train de prêcher, mine de rien, un condensé de l'Évangile où Christ est au cœur. Et je vous propose donc maintenant, dans cette dernière partie, de nous plonger dans trois vérités bibliques fondamentales qui sont développées dans cette épître à Philémon. Premièrement, le thème de la réconciliation. C'est une thématique qui déborde dans toute l'épître. Paul, en tant qu'intermédiaire ou médiateur, il souhaite qu'il y ait un rétablissement des relations qui s'opèrent entre Onésime et Philémon. Rappelons quand même que Philémon est doublement lésé, à la fois par la perte de son esclave, donc c'est un capital, nous pourrions dire, qui lui échappe, et deuxièmement parce que Onésime l'a volé. Paul va donc faire œuvre de réconciliation pour que ces deux parties se retrouvent. Il exprime de cette manière le ministère de Jésus-Christ qui n'a de cesse de vouloir réconcilier l'homme pécheur avec son Créateur. Je vous cite un passage dans 2 Corinthiens, j'ai oublié de noter le chapitre, pardonnez-moi. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous, chrétiens, les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Jésus-Christ nous donne, en tant que chrétien, cette fonction d'ambassadeur pour proclamer qu'il y a une réconciliation possible entre l'homme pécheur et son Créateur. Mais cette bonne nouvelle, elle n'est permise que parce que Christ lui-même, Dieu fait homme, a pris sur lui, a fait office de médiateur. Si nous sommes au bénéfice de cette réconciliation, nous sommes appelés à être des agents de paix et de réconciliation. D'abord en proclamant la paix possible entre Dieu et l'homme, mais aussi dans un monde où les dissensions et les haines ne manquent pas, en étant nous-mêmes des agents de paix, des médiateurs, des réconciliateurs. Que nous puissions apporter cette modération, cette médiation et cette réconciliation dont notre monde a tant besoin. Deuxièmement, nous avons un plaidoyer. On l'a vu, Paul utilise de nombreux arguments pour plaider en faveur d'Onésime. Il ne le fait pas en minimisant les fautes de l'esclave ou en surjouant les bons côtés d'Onésime. Vous savez, dans un procès, quand l'avocat est chargé de défendre l'accusé, il va toujours essayer de s'appuyer sur les bons côtés. Oui, mais en fait, ce n'est pas vraiment de sa faute. Mais regardez, il a quand même exprimé des regrets, donc voilà, où il a changé, etc. Paul ne va pas chercher à minimiser les fautes d'Onésime. Il lui dit lui-même, il t'était inutile. Bon. Mais Paul plaide au nom de l'amour, au nom de l'amitié, et en puisant, on l'a vu, dans le stock qui unit sa relation avec Philémon. La parole la plus forte, nous l'avons vu, c'est probablement celle qui est au verset 17, « Accueille-le comme s'il s'agissait de moi-même. » Nous voyons ici un parallèle évident entre notre Sauveur Jésus, qui de son trône de gloire ne cesse de plaider auprès du Père en faveur de ses enfants. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1, nous lisons « S'il est arrivé à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Si nous sommes chrétiens, que nous péchons, nous savons que nous avons Christ lui-même, qui à la droite de Dieu, plaide en notre faveur. Tout comme Paul a plaidé en faveur de Onésime, Christ plaide en notre faveur. Et c'est là une vérité essentielle, si importante, si réconfortante. Si vous n'appartenez pas à Christ, Jésus-Christ plaide aussi pour vous. Christ est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Si vous n'êtes pas croyant, si vous n'avez pas mis votre confiance en Dieu, sachez que Christ intercède en votre faveur dès lors que vous lui demandez d'intervenir. Il le fait non pas en minimisant vos fautes, mais en disant, un petit peu comme Paul, « Pardonne-le à cause de moi. Accepte-le comme si c'était moi. Je suis mort pour lui, dirait Jésus, ou pour elle. Mon sang lui assure le pardon. Fais grâce, une fois encore. Et le Père, qui écoute le Fils, fait grâce, une fois encore. » Dernièrement, nous avons dans l'Épître à Philémon une illustration concrète de la rédemption. Alors, qu'est-ce que la rédemption? Un grand mot. En réalité, tout simplement, c'est la notion de rachat. Un verset qu'on lit un petit peu vite, au verset 18, dit « Si tu as été lésé par lui ou s'il te doit quelque chose, porte cela sur mon compte. » Paul est en train d'exprimer, au travers de cela, une vérité évangélique très importante. C'est-à-dire le rachat ou le paiement d'une dette que quelqu'un doit. La Bible nous dit que notre péché est une sorte de dette morale qui nous met sous le joug d'une condamnation divine. L'homme, par lui-même, est totalement incapable de payer cette dette. Il n'a pas les moyens de rembourser quelque part le fardeau, la dette morale qu'il doit à Dieu. Aussi, Dieu intervient lui-même par son Fils Jésus-Christ. En mourant sur la croix, il rachète notre dette. Et tout comme Paul, qui était juste dans sa conduite, s'engage à payer pour un voleur, Christ, qui était pourtant sans péché, s'est engagé à payer pour une humanité rebelle et pervertie. Jésus dit, le Fils de l'homme, c'est lui-même, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Un autre passage nous dit, ce n'est pas par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Le sang précieux de Jésus-Christ est le prix de notre condamnation. C'est la rançon qui est payée, c'est notre dette qui est effacée. Et Paul, en faisant cela, en mettant cet argent sur la table, en s'engageant à payer en faveur de son esclave, de Onésime, met en lumière cette vérité si importante de Christ qui paye en notre faveur. Alors que dire en guise de conclusion? En une aussi courte lettre que de thèmes développés, n'est-ce pas? La mise en œuvre de l'amour, l'humilité, le pardon, la transformation intérieure radicale opérée par le Saint-Esprit, la souveraineté de Dieu dans les vies, l'amitié fraternelle, l'intercession pour autrui, etc. En quelque sorte, on peut dire que l'épître de Philémon, même si elle ne développe pas des grands thèmes théologiques, elle est l'application concrète et pratique d'une vie chrétienne qui est changée, qui est transformée. Alors, ma prière, c'est que la parole du Seigneur, ce matin encore, touche nos cœurs et qu'elle nous amène de plus en plus à vivre en conformité avec notre vocation chrétienne. Amen.